Merci Luc. Je vous invite à trouver avec moi l'Épître aux Colossiens. L'Épître aux Colossiens. Pendant que vous faites ça, je vais boire un peu d'eau. L'Épître aux Colossiens. Nous serons dans le chapitre 1. Nous verrons quelques autres versets, mais principalement, nous serons ici. Colossiens chapitre 1, vous le savez, mais juste pour rappel, Paul écrit cette lettre à partir d'une prison. Il est dans les chaînes, et pourtant, il écrit Éphésiens, Philippiens et la lettre aux Colossiens environ en même temps. Il y a aussi, la lettre aux Colossiens nous l'apprend, une lettre à l'église de Thessalonique, de Laodicée, pardon. Voilà, Paul, il est là en prison, mais il ne s'apitoie pas sur lui-même. Non, il a le souci des églises. Il veut les fortifier, il veut répondre à des questions, il veut les encourager et leur enseigner aussi. Et dans Colossiens chapitre 1, Paul, il commence comme il a l'habitude de faire. Il se présente, il présente ceux qui sont avec lui dans les trois premiers versets. Et ensuite, il se tourne vers Dieu et il loue Dieu. Il loue les chrétiens auxquels il écrit, plus précisément ici dans la lettre aux Colossiens. Il va les louer pour leur amour, aussi leur persévérance, l'évangélisation qu'ils font. Et au verset 8, il est question d'Épaphras, il nous a appris de quel amour l'esprit vous anime. Paul a beaucoup de bonnes choses à dire sur les Colossiens, c'est une église qu'il faudrait imiter. Et c'est là au verset 9, où nous entrons dans le passage que nous allons voir, et peut-être vous soupçonnez, ou peut-être vous l'avez entendu, que nous allons parler de la volonté de Dieu aujourd'hui. Et Paul traite de cette question dans ce passage, et à travers ce passage et quelques autres versets que nous allons voir, par la grâce de Dieu, j'aimerais qu'on réfléchisse sur cette question et puis apporter quand même quelques réponses. Alors, je ne prétends pas pouvoir tout couvrir ou répondre à toutes les interrogations. Ne croyez pas qu'il y aura une vérité nouvelle, une révélation. Non, je pense que ce sera surtout des rappels, mais des rappels importants. Et par la grâce de Dieu, avec l'éclaircissement que donne le Saint-Esprit, je prie, ma prière à la fois pour vous, pour moi-même, c'est qu'on puisse comprendre, appréhender, saisir plus de la volonté de Dieu à travers ces quelques instants que nous passons ensemble. Alors, permettez-moi de lire ce passage, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14, pour nous donner un peu ce contexte, après quoi nous prierons et nous allons réfléchir ensemble. Alors, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 9. « C'est pour cela, donc sur tout ce qu'il vient de dire dans les 8 premiers versets, nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre ces quelques instants que nous passons dans ta parole, que tu diriges notre pensée, Que par ton esprit, tu nous donnes de comprendre ce que tu as pour nous et par ta grâce, que tu continues de nous transformer pour nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ et que cela soit pour ta gloire. En ton nom, nous prions. Amen. Alors, Paul évoque ici la volonté de Dieu. Il dit au verset 9 que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Alors, sous-entendu, la volonté de Dieu. Et dans le christianisme, aujourd'hui, je suis convaincu que la volonté de Dieu reste probablement une des choses les plus mystérieuses, peut-être une des choses les plus mal comprises dans tout le christianisme. Il y a des choses qui sont bien simples à comprendre. Jésus-Christ est venu sur la terre, il a vécu une vie parfaite, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Il a été enseveli, il est ressuscité 3 jours après pour nous donner le salut. Cela, c'est quelque chose de assez simple à comprendre, n'est-ce pas? Ce sont des faits, c'est quelque chose qui s'est passé, on arrive à saisir cela. Mais lorsqu'il est question de la volonté de Dieu, on se dit, mais bon, les faits historiques, on peut les lire, on peut les apprendre, on sait que ces choses se sont réellement passées. Des choses, on peut les toucher, mais la volonté de Dieu étant, par nécessité, quelque chose d'immatériel, quelque chose qui est peut-être là, plus une idée, certains vont dire c'est peut-être plus un sentiment. On se dit, mais la volonté de Dieu... Déjà, qu'est-ce que c'est? Puis-je la comprendre? Comme on dit parfois, suis-je dans la volonté de Dieu? Suis-je en dehors de la volonté de Dieu? Et parce qu'on a du mal un peu à saisir ceci, parce que parfois il y a même de mauvais enseignements là-dessus, il se peut qu'il y ait certains qui se disent, c'est même pas la peine de réfléchir là-dessus, c'est même pas la peine de chercher à comprendre la volonté de Dieu, de toutes les façons, on ne la trouvera pas. Et parfois, même certains chrétiens peuvent croire que Dieu, avec sa volonté, joue un peu à cache-cache avec eux. Que Dieu se dit, voilà, j'ai caché ma volonté quelque part, maintenant, à vous de la trouver. Il paraît, on me le dit, j'en ai pas le souvenir, mais il paraît, quand j'étais plus jeune, on avait pratiquement tous les matins des vitamines qu'on devait prendre, mes frères et moi. Et apparemment, moi, je me faisais une joie de cacher les vitamines avant le petit déjeuner. Et puis ma mère disait, mais Robert, où est-ce que tu les as cachées? Et je lui disais, les yeux tout gros, il faut les trouver. Bon, Dieu ne fait pas ça avec nous. Sa volonté n'est pas quelque chose qu'il veut garder pour lui et que nous, on doit faire tous les efforts possibles et imaginables, avec peut-être l'espérance, peut-être une petite lumière d'espoir d'obtenir, d'être dans la volonté de Dieu. Non, Dieu révèle sa volonté. Et plus que cela, sa volonté, c'est qu'on trouve sa volonté. Et Dieu met tout en œuvre pour nous permettre déjà de trouver sa volonté et de savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est probablement la chose qui suscite le plus de doutes dans l'esprit des chrétiens aujourd'hui. Et Paul explique à travers ces quelques phrases dans ces versets les éléments essentiels concernant cet enseignement de la volonté de Dieu. Et la toute première chose, même d'entrer dans les détails de ces versets, la toute première chose qu'il faut savoir, c'est que la volonté de Dieu est pour ses enfants. Paul, il va écrire à Timothée et il va leur dire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, la volonté de Dieu, déjà, c'est qu'on soit sauvés. Ce qui veut dire, si nous ne sommes pas sauvés, nous sommes déjà en dehors de la volonté de Dieu. Quelqu'un encore inconverti est né en dehors de la volonté de Dieu, dans le sens où Dieu veut que tous soient sauvés. Du coup, si nous sommes sauvés, quelque part nous pouvons dire « je suis déjà dans la volonté de Dieu ». La volonté première de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Si je ne suis pas encore sauvé, ben, je dois prendre cette décision d'accepter le salut de Dieu aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. Demain, cet après-midi, ce sera peut-être trop tard. Mais nous cherchons la volonté de Dieu, ben, déjà, ben, c'est le salut. Et d'ailleurs, Paul évoque cela à partir du verset 12, dans ce passage. Au verset 12, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Et Paul, il va parler du salut ici. Il, donc, le Père, Dieu, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Nous étions des pécheurs, loin de Dieu, nous étions ses ennemis, nous étions en dehors de sa volonté, avant notre salut. Et toute personne qui n'est pas encore sauvée est encore en dehors de la volonté de Dieu. Alors la toute première chose, c'est la volonté de Dieu, c'est que tout soit sauvé. Le salut. Et Dieu a tout mis en œuvre pour que tous soient sauvés. Mais tous ne sont pas sauvés parce que tous n'ont pas reçu cela, n'ont pas accepté. Mais tous peuvent. Alors, si nous sommes sauvés, et je le mets au conditionnel, si, et je prie que chacun ici ait pris cette décision, si on ne l'a pas encore fait, il faut le faire aujourd'hui. Dieu appelle, comme disait le chant d'Éric tout à l'heure. Mais si nous sommes sauvés, bah, c'est déjà une première étape. Gloire à Dieu. Amen. Mais au-delà de cela, je suis sauvé. Mais et maintenant quoi? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Puis-je connaître la volonté de Dieu? Et Paul répond à cette question dans ce passage. Alors, nous revenons au verset 9 de notre texte. Paul a entendu parler de l'amour, des sacrifices, de l'évangélisation que faisaient les Colossiens. Et il dit, « Depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Imaginez-vous aujourd'hui bénéficier des prières de l'apôtre Paul. Cet homme engagé, cet homme avec une relation si forte avec Dieu, qui pouvait dire à partir de sa prison, « Réjouissez-vous toujours. » Quand même. Et bénéficier des prières de l'apôtre Paul. Ce serait extraordinaire, n'est-ce pas? Mais en même temps, Paul il n'était pas différent de nous. Paul a été sauvé, tout comme nous. Bien sûr, son expérience était extraordinaire, sortait de l'ordinaire, mais il était sauvé, tout comme nous, si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et Paul dit aux Colossiens, « Je prie pour vous. » Et je prie spécifiquement, comme il montre ici, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Alors, si Paul prie dans ce sens, il sous-entend que connaître la volonté de Dieu est quelque chose de possible. Et déjà, ça devrait nous rassurer. Connaître la volonté de Dieu est possible. Ce n'est pas un exercice futile, quelque chose que Dieu nous demande de faire, mais on sait très bien qu'en fait, on n'y arrivera pas. Mais bon, il faut faire quelque chose, alors voilà, on va chercher la volonté de Dieu. Non, c'est quelque chose qui est possible. Parce que sinon, Paul n'aurait jamais prié dans ce sens. Et il prie spécifiquement pour les Colossiens qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté. Non pas qu'ils connaissent la volonté de Dieu un peu, ou à moitié, ou aux trois quarts, mais qu'ils soient remplis, qu'ils connaissent toute la volonté de Dieu. Et nous voyons ici que la volonté de Dieu passe par la prière. Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Bien sûr, il faut demander conseil aux uns aux autres. Dieu nous demande d'agir avec sagesse. Dieu nous demande de réfléchir, de ne pas nous précipiter. Mais nous voulons connaître la volonté de Dieu, ça passe par la prière. Et si nous ne prions pas pour connaître la volonté de Dieu, déjà nous faisons fausse route. Déjà nous passons à côté. Et Paul dit, Colossiens, vous devez connaître la volonté de Dieu. Et je crie pour que vous la connaissiez. Parce que Paul comprenait combien c'était important. Et que la volonté de Dieu arrive à travers la prière. Mais ce qui est intéressant ici à voir, c'est que Paul prie pour la volonté de Dieu, non pas pour lui-même, mais pour les Colossiens. Et bien sûr, il faut prier pour que Dieu nous donne sagesse de comprendre la volonté de Dieu pour nous. Et gloire à Dieu, Jacques, chapitre 1, Jacques dit, est-ce qu'on manque de sagesse? Quelqu'un d'entre vous manque de sagesse? Et qui manque de sagesse? Moi, le premier à le dire. Bah, qu'il demande à Dieu, et Dieu la donnera. Donc, personnellement, on prie. Mais, ici, nous voyons que Paul prie pour les autres. Et cela est quelque chose de très important. Parce que prier pour soi-même, important, quelque part, ça va sans dire, c'est sous-entendu. Mais, est-ce que nous savons qu'il y a des gens qui passent par des moments difficiles? Des gens qui sont un peu dans l'incertitude? Est-ce que nous sommes au courant de personnes qui sont face à des décisions, soit des décisions mineures, ou peut-être des décisions majeures qu'ils doivent prendre? Et quelle est notre prière pour ces personnes? Est-ce que nous, tout comme Paul, dès qu'on entend parler de cela, il dit depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Il savait que les Colossiens avaient besoin de savoir la volonté de Dieu. Et moi, aujourd'hui, est-ce que je connais des personnes qui ont besoin de savoir la volonté de Dieu? Je suis en train de regarder un ensemble de personnes qui ont besoin de savoir la volonté de Dieu. Et vous en regardez une ici. Et est-ce que nous sommes continuellement en train de prier, Dieu accorde à un tel, une telle, la sagesse nécessaire pour savoir ta volonté? Bien sûr, on le prie de temps en temps. Quelqu'un dit, voilà, je dois faire tel ou tel choix. Alors, priez pour moi, je veux connaître la volonté de Dieu. Et ça, c'est très bien. Mais Paul dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et il est vrai, je dois le reconnaître dans ma vie. Parfois, nous nous lassons de prier. On dit, voilà, on prie pour la volonté de, pour que quelqu'un connaisse la volonté de Dieu, que Dieu se révèle à cette personne et tout. Et on prie une fois, on prie deux fois, on prie peut-être pendant toute une semaine. Et on se dit, ouais, j'ai prié pendant toute une semaine, vous voyez. Et puis après une semaine, bon, peut-être on oublie, peut-être on devient un peu occupé. Et puis on délaisse cette prière pour la volonté de Dieu, pour quelqu'un d'autre. Et Paul, ici, nous montre que la volonté de Dieu, la connaissance de cela, passe par la prière, déjà pour soi-même, mais aussi pour les autres. Et en même temps que nous prions pour les autres, que Dieu leur donne la connaissance, la sagesse nécessaire pour comprendre et être dans sa volonté, quelque chose de formidable arrive. Dieu nous donne la sagesse nécessaire pour connaître sa volonté pour notre vie. Et c'est comme ça que Dieu veut que cela arrive. Alors, la toute première question que je dois me poser lorsque je commence à réfléchir à la volonté de Dieu, est-ce que je suis en train de prier pour cela? Est-ce que c'est vraiment un désir de mon cœur? Et est-ce que ce désir me pousse à prier à Dieu? Et une prière confiante. Vous savez, parfois, on fait des prières. Enfin, moi, il m'arrive parfois, je l'avoue, je le reconnais, de prier des prières qui ne sont pas des prières de foi. De faire une prière, mais quelque part, au fond de moi, je me dis, bon, je prie, mais je ne suis pas tout à fait convaincu que Dieu interviendra, que Dieu va pourvoir, qu'il va diriger. Mais bon, il faut prier, alors je prie. Et là, ce n'est pas bien, je le reconnais. Et parfois, avec la volonté de Dieu, on peut avoir un peu cela. On dit, voilà, Seigneur, donne-moi ta volonté, montre-moi, donne-moi cette connaissance de ta volonté. Mais au fond de nous, on se dit, mais de toutes les façons, je n'y arriverai jamais. Et il faut bannir cette pensée, ce sentiment, et tout comme Paul, être entièrement convaincu que la volonté de Dieu peut être trouvée, que la volonté de Dieu peut être mise en pratique, peut être suivie, et de prier dans ce sens pour nous-mêmes, pour les autres. Alors, gardez votre place dans l'Épître aux Colossiens et allez quelques pages plus loin dans la première Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Parce que c'est très bien de prier de manière générale, « Seigneur, donne-moi la connaissance de ta volonté. » Mais parfois, on aimerait avoir plus de précision, se dit « Seigneur, donne-moi ta volonté pour un époux, une épouse, un mari, une femme. » Je sais que beaucoup en ce moment prient pour moi dans ce domaine, c'est très bien, merci. Et c'est pour cela que moi je ne m'inquiète pas, j'ai assez de gens qui s'inquiètent pour moi dans ce domaine, que moi je n'ai pas besoin de le faire. Mais on prie, voilà Seigneur, montre-moi quelle voiture je dois acheter, montre-moi quelle maison je dois acheter, montre-moi spécifiquement quelle décision je dois prendre. Et puis on attend et on se dit, voilà, rien. Mais en fait, là, Dieu ne nous révélera probablement pas directement ce qu'il attend de nous dans chaque petit aspect de notre vie. Par contre, Dieu a révélé certaines choses dans sa parole que nous pouvons, que nous devons mettre en pratique. Et si nous ne faisons pas ça, nous ne pouvons pas espérer qu'il nous dirige, qu'il nous garde dans sa volonté pour ces autres choses où la Bible ne parle pas directement. Alors, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, Paul va dire à cette église, verset 3, « Ce que Dieu veut. » Ah, voilà. Qu'est-ce que Dieu veut? Finalement, la volonté de Dieu, voilà, je l'ai trouvé. Ce que Dieu veut, c'est que tu achètes telle ou telle voiture? Non. C'est que tu ailles tel ou tel endroit? Que tu te maries avec telle ou telle personne? Non. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et bien sûr, ici, ce verset s'applique aux gens qui sont déjà sauvés. Donc, tout d'abord, la volonté, on va dire, première de Dieu, c'est qu'on soit sauvé. Si on n'est pas encore sauvé, ben, il faut régler ça d'abord. Mais une fois qu'on est sauvé, si on se pose des questions sur la volonté de Dieu, tout d'abord, il faut revenir à ce verset et se poser la question, est-ce que je suis en train de progresser dans la sanctification, c'est-à-dire la conformité à Jésus-Christ, dans la maturité, et plus précisément dans ce verset, comme Paul le dit, c'est que vous vous absteniez de la débauche, toute impureté morale. Et si je ne peux pas répondre à cette question en disant « Oui, je progresse dans la sanctification par la grâce de Dieu, j'ai banni toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu, j'ai confessé tout péché qui, à ma connaissance, dans ma vie, à ce moment-là, comment est-ce que nous pouvons espérer que Dieu va nous diriger pour les choses qui sont moins claires dans la vie? Si nous ne sommes pas encore, pas déjà en train de suivre sa volonté dans ce domaine de la sanctification. La toute première chose, lorsque on arrive pour comprendre la volonté de Dieu, bien sûr, c'est la prière, pour nous-mêmes, pour les autres. Et avec cela, de s'examiner, confesser son péché, et ça c'est dur. On n'aime pas le péché, on veut dire devant Dieu, bah, Dieu, plus ou moins tout va bien. Un peu comme on fait les uns avec les autres, alors qu'on sait très bien que ça ne va pas. Mais Dieu sait toutes choses. On ne peut rien lui cacher. C'est tellement ridicule lorsqu'on y pense d'essayer de cacher les choses de Dieu. Et pourtant, on essaie de le faire. On est tous coupables de cela, moi le premier. Et Dieu dit, ce que je veux, c'est votre sanctification. Alors, regarde-la d'abord, dit Dieu. Assure-toi que tu es en train de m'obéir dans tous les domaines dont je parle dans la Bible. Et là, on commence à avancer dans la connaissance de la volonté de Dieu. Alors, le passage que Luc nous a lu tout à l'heure, Éphésiens chapitre 5, qui a été écrit à peu près en même temps que l'Épître aux Colossiens, Paul, de nouveau, va parler de la volonté de Dieu. Alors, Luc ne les a pas lus, mais le verset qui suit le passage qu'il a lu va parler d'être rempli du Saint-Esprit. Soyez toujours, continuellement, remplis du Saint-Esprit. Et est-ce que je peux dire en cet instant, je suis rempli du Saint-Esprit? Si la réponse est non, je dois reconnaître que je suis en dehors de la volonté de Dieu. Et on n'a pas trop souvent l'habitude de réfléchir de cette façon. Mais le salut, bien sûr, la prière pour demander l'aide de Dieu, la sanctification, et puis être rempli du Saint-Esprit. Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, et en Éphésiens 5, Paul va donner les preuves de cela, la prière, mais aussi la louange, les chants, l'exhortation. Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, bah, là aussi, comment est-ce que je vais pouvoir espérer avoir l'aide de Dieu pour comprendre sa volonté dans les choses qui sont moins claires où la Bible ne parle pas directement? Alors, nous revenons à Colossiens, chapitre 1. Et Paul dit au verset 9, « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » Et la façon dont Paul parle ici est différente de ce que peut-être nous disons assez souvent. Parce que lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, on dit « Il faut trouver la volonté de Dieu. » C'est nous qui allons chercher la volonté de Dieu. C'est notre action pour aller trouver quelque chose. Et pourtant, ce que Paul dit ici, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. C'est à la voie passive, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous arrive, que quelqu'un d'autre fait à nous. Et Paul dit, je prie que pour que vous soyez remplis. Remplis par qui? Ben, par Dieu. Que Dieu nous donne la connaissance de sa volonté, qui est effectivement, selon Romains chapitre 12, versets 1 et 2, bonne, agréable et parfaite. Alors, la connaissance de la volonté de Dieu, bien sûr, il faut être obéissant à Dieu, mais cette connaissance vient de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous la révèle, plus que c'est nous qui allons la chercher pour la trouver. Alors, allez avec moi très rapidement dans la première épître à Pierre. La première épître de Pierre, chapitre 3, verset 17. Parce que je vais vous montrer un verset qui est bien surprenant. Parce que la volonté de Dieu, on dit, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Mais Pierre va révéler quelque chose dans ce verset qui nous bouleverse, qu'on n'aime pas trop. Parce qu'on dit, la volonté de Dieu, c'est une bonne chose. C'est que de bonnes choses, n'est-ce pas? Et pourtant, la première épître de Pierre, chapitre 3, Pierre ici est en train d'écrire à des chrétiens qui souffraient la persécution. Et au verset 17, regardez, « Car il vaut mieux souffrir, un mot qu'on n'aime pas du tout. » La souffrance, bah, qu'on éloigne ça de moi, que je l'évite à tout prix, que je m'en débarrasse, que je m'en sorte. Il vaut mieux souffrir. Regardez, si telle est la volonté de Dieu, non mais c'est pas possible. La souffrance, la volonté de Dieu, mais Robert. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors, Pierre n'est pas en train de dire, c'est toujours la volonté de Dieu qu'on souffre. Et certains ont mal compris ceci, et ont dit, pour être dans la volonté de Dieu, il faut souffrir. Non, 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 non. C'est une façon tordue de voir ce verset. Mais, si on comprend bien ce verset, on comprend que parfois, la souffrance fait partie de la volonté de Dieu. Et là, on se dit, mais, c'est pas possible. Non, Dieu aime ses enfants. Quel parent veut voir ses enfants souffrir? Vous qui êtes parents, je suis certain, vous ne voulez pas voir vos enfants souffrir, sauf quand ils vous désobéissent, et là vous dites, voilà, tu vas souffrir. Mais un parent ne veut pas voir son enfant souffrir. Et pourtant, Pierre dit ici, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, et parfois ça l'est, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et Pierre, dans ce passage, va expliquer, si on fait le mal, si on enfreint des lois, si on fait ce qui est mal, et on est châtié pour cela, on souffre, bah, quelque part, tant pis. on récolte ce qu'on a semé. Mais Pierre dit, si en faisant le bien, en manifestant l'amour, en faisant ce que Dieu demande de nous, on souffre quand même, Pierre dit, bah, il faut accepter cela. Cela peut faire partie de la volonté de Dieu. Et je ne sais pas vous, mais moi je n'aime pas entendre cela. Moi je veux entendre que tout va bien, que lorsque je suis dans la volonté de Dieu, je n'aurai pas du tout de soucis. Je n'aurai pas du tout d'ennui, tout va aller bien, aucune frustration, aucune difficulté, aucune friction, pas de tension, rien du tout. Quand je suis dans la volonté de Dieu, voilà. Et Pierre dit, non, 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 non. Parfois, la volonté de Dieu, c'est qu'on souffre. Ceci ne veut pas dire que toute souffrance est la volonté de Dieu. Parfois, on souffre à cause de nos mauvais choix. Parfois, on souffre à cause des mauvais choix des autres, qu'on ne contrôle pas. Mais nous devons reconnaître que la souffrance, parfois, fait partie de la volonté de Dieu. Et Pierre va expliquer dans ce passage, nous n'avons pas le temps de le voir, mais Pierre va expliquer que l'exemple suprême de cela, c'est Jésus. Jésus a-t-il souffert? Oui, au plus haut degré. Il est même mort. Est-ce qu'il était dans la volonté de Dieu? Absolument. À 100%. Même s'il y avait une lutte, jardin de Gethsemane. Il est au seuil de cette souffrance, pas simplement physique, mais aussi morale. Et il dit, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Il y avait une lutte, mais il a accepté la volonté de Dieu alors qu'il savait qu'il y aurait souffrance. Il y aurait même la mort. Bon, la volonté de Dieu ne veut pas toujours dire qu'on n'aura pas de soucis, qu'on n'aura pas d'ennui. Mais à travers ces choses, Dieu nous donne sa paix. Et c'est justement ce que Jésus va expliquer. Dans Jean chapitre 20, il va dire, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix de Dieu qui est là, lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à expliquer si on ne l'a pas ressenti pour soi-même. Et ça va être un peu différent pour chacun. Je sais qu'à deux reprises dans ma vie, il y a deux événements où j'ai expérimenté cela de façon très forte. La première, c'est devant Dieu, j'ai dit, voilà, je vais venir passer un mois ici en France au lieu de faire autre chose aux États-Unis un été. Et dès que j'ai pris cette décision, j'avais une paix. Alors que jusque-là, je vacillais, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais finalement, j'ai pris la décision et Dieu m'a donné sa paix. La deuxième, c'est lorsque, la deuxième fois où cela est arrivé de manière très forte dans ma vie, c'est lorsque Dieu m'a appelé à être pasteur ici. Et je luttais avec ça, je vous le dis honnêtement. Et finalement, j'ai accepté et Dieu m'a donné sa paix à ce moment-là. Et puis par la suite, il a ouvert les portes. À chaque fois, ça n'a pas été sans difficulté. Mais c'est quelque chose de presque indescriptible et pourtant bien réel que Dieu fait. Et lorsque nous revenons à l'épître aux Colossiens chapitre 1, Paul dit « Être rempli de la connaissance de sa volonté est possible. » Il faut prier pour cela. Ce ne sera pas toujours facile, ça impliquera la souffrance. Alors, il ne s'agit pas toujours de fuir la souffrance, mais par la volonté de Dieu de persévérer. Et puis, à partir de verset 10, Paul va montrer le but de la volonté de Dieu. Parce que parfois, on a cette idée dans notre esprit, voilà, il faut que je sois dans la volonté de Dieu pour que tout se passe bien, pour que ma vie soit tranquille, pour que je n'ai pas d'ennui. Mais Paul révèle ici le but de la volonté de Dieu. Et lorsque nous gardons cela dans devant nos yeux, à ce moment-là, ça nous aide à examiner si nous sommes dans la volonté de Dieu ou pas. Le verset 10, regardez. Après avoir parlé de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, Paul va dire « pour ». En grec, la façon dont il dit, c'est le but, la finalité de la chose, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Dans ma recherche de la volonté de Dieu, si je ne suis pas en train de vivre une vie qui est agréable à Dieu, tout de suite, je peux me dire que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Si dans ma vie, alors que je suis en recherche de la volonté de Dieu, je demande à Dieu de me révéler sa volonté, de me diriger, mais que quand même dans ma vie, je garde un aspect qui ne plaît pas à Dieu, qui est contraire à sa parole, je ne peux pas être dans la volonté de Dieu. Parce que Paul dit, la volonté de Dieu, son but, c'est de vivre une vie qui plaît à Dieu, qui est conforme à lui, à Dieu, et qui est agréable. Et j'aime bien comment Paul le dit, qu'il lui est entièrement agréable. Pas juste un peu, pas en grande partie, mais entièrement, le tout. Et lorsque j'examine ma vie et ma recherche de la volonté de Dieu, est-ce que je peux dire honnêtement devant Dieu que je recherche la volonté de Dieu, non pas pour mon bonheur, mon plaisir propre, mais pour que je sois agréable à Dieu? Est-ce que la recherche de la volonté de Dieu est plus égoïste, en disant pour que tout va bien, pour que je n'ai pas de soucis, pas d'ennuis? Ou est-ce que je dis honnêtement devant Dieu, je cherche ta volonté parce que je sais que c'est ce que tu demandes de moi et je veux être entièrement agréable. Et Paul va continuer dans ses versets, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alors j'aime bien comment Paul l'exprime, portant des fruits, toutes sortes de bonnes œuvres. Je suis tellement content qu'il n'y a pas simplement une sorte de bonne œuvre. Parce que sinon, on serait tous en train de faire la même chose. Et je vous prie de croire que ça deviendrait très vite ennuyant, peu intéressant. On s'en lasserait. Mais non, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Ce que moi je fais en termes de bonnes œuvres devant Dieu n'est pas forcément ce que vous allez faire. Et ce que vous allez faire en termes de bonnes œuvres devant Dieu n'est pas forcément ce que moi je ferai. Dieu a préparé à l'avance des bonnes œuvres, non pas pour qu'on les regarde, combien elles sont belles, elles sont formidables, non, mais pour que nous les pratiquions. Et ici, Paul dit, le but de la volonté de Dieu, c'est d'être agréable. Et nous sommes agréables lorsque nous portons ses fruits. Et puis, à la fin du verset 10, croissant par la connaissance de Dieu. Alors, la connaissance de Dieu peut être comprise de deux façons. Une connaissance de la personne de Dieu, mieux le connaître, ses attributs, ce qu'il attend de nous et tout. Ou, cela peut vouloir dire la connaissance que possède Dieu. La toute connaissance, l'omniscience, comme on le dit parfois. Et je suis convaincu qu'il y a les deux aspects là-dedans. De mieux connaître Dieu. Si dans ma recherche de la volonté de Dieu, je n'apprends pas plus concernant Dieu, je suis sûrement sur un mauvais chemin. Mais aussi de grandir dans cette connaissance de Dieu, c'est-à-dire de laisser l'omniscience de Dieu me diriger, me remplir. Mais Paul ne s'arrête pas là. Verset 11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Dans la volonté de Dieu, un aspect qui est très très important, c'est la persévérance. Parce que Dieu prend son temps, agit en son temps selon son calendrier. Et c'est souvent pas comme le nôtre. Nous, on veut que les choses arrivent tout de suite. On veut qu'il nous réponde maintenant. On veut qu'il débloque telle ou telle situation maintenant. Et nous avons besoin de persévérer. Et c'est ce que nous voyons ici, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants. Persévérants. Allez, jusqu'au bout. Mais aussi patients. Patients pour croire. Parce que parfois la réponse tarde. Parfois les gens autour de nous, ils ne sont pas agréables. Parfois on a des attaques. Parfois il faut attendre. Et à ce moment-là, nous avons besoin à la fois de persévérance pour aller jusqu'au bout, et patience pour s'attendre à Dieu. Et nous pouvons le faire lorsque nous savons que nous sommes fortifiés par la puissance de Dieu. Cette puissance qui a créé l'univers. Cette puissance qui a parlé et ce monde est venu à l'existence. Cette puissance qui nous a créés. Cette puissance qui nous soutient encore aujourd'hui. Cela nous permet de connaître la volonté de Dieu. Cela nous soutient dans la volonté de Dieu. Et bien sûr, à partir de verset 12, cette reconnaissance. Lorsque je suis dans la recherche de la volonté de Dieu, je prie, je sais que d'autres prient pour moi. J'ai confessé des péchés dont j'ai connaissance dans ma vie. J'ai des regards portés vers Dieu, j'accepte tout de sa main. À ce moment-là, je peux être dans la joie, je peux être dans la reconnaissance. Et si dans mon cœur, il n'y a pas ou très peu de reconnaissance, c'est un signe que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu produit obligatoirement la reconnaissance. La reconnaissance même pour des choses difficiles, comme Pierre va dire, même la souffrance. Actes chapitre 5, les apôtres sont battus, on les menace de mort, ils reviennent chez les frères, à l'église, à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils font? La chose la plus bouleversante de tout le livre des Actes, pour moi au moins. Ils louent Dieu d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour le nom de Christ. À leur place, moi, je serais revenu à l'église en disant « Priez pour moi qu'il n'y ait plus de persécution, priez pour moi que je ne sois plus arrêté, priez... » Mais honnêtement, il ne me serait pas venu à l'esprit de demander aux autres de louer Dieu que je sois trouvé digne de souffrir. Que les autres soient dignes de souffrir, oui, gloire à Dieu, amen. Mais moi, Seigneur, épargne-moi. Et pourtant, même au sein des situations les plus difficiles, nous pouvons être reconnaissants. Et lorsqu'il y a peu ou pas du tout de reconnaissance dans notre vie, c'est comme un feu rouge. C'est comme les clignotants. Oh là là, il y a un problème. Parce que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, malgré les circonstances, nous pouvons être reconnaissants. Nous pouvons rendre grâce à Dieu. Du coup, la volonté de Dieu. Y suis-je ? Ben, tout d'abord, suis-je sauvé ? Je peux dire oui. Est-ce que je suis en train de prier pour que Dieu me révèle sa volonté ? Est-ce que je demande aux autres de prier pour moi ? Est-ce que je prie pour les autres ? Est-ce que réellement je prie avec foi ? Est-ce que réellement je suis prêt à accepter tout de sa main, les bonnes choses comme les choses difficiles que nous allons dire sont moins bonnes ? Est-ce que dans ma recherche de la volonté de Dieu, je veux obéir à Dieu ? Est-ce que mon but c'est de satisfaire mes désirs propres ou est-ce que c'est de vivre cette vie qui est agréable à Dieu ? Est-ce que je porte des fruits dans ma recherche de la volonté de Dieu ? Est-ce que ça se voit que je m'approche de Dieu ? Et dans ma recherche de la volonté de Dieu, est-ce que je peux à tout moment rendre grâce, remercier Dieu ? Si la réponse à toutes ces choses est oui, à ce moment-là, je peux être certain que je suis dans la volonté de Dieu. Mais si la réponse est non, voici les choses que je dois corriger dans ma vie pour que Dieu me remplisse de la connaissance de sa volonté. Et lorsque nous suivons ce que Paul met par écrit ici pour nous, à ce moment-là, Dieu, bien sûr, nous révèle sa volonté. Et dans ces domaines où la Bible ne parle pas clairement, spécifiquement, nous allons pouvoir faire des choix et savoir que Dieu nous accompagne dans cela et savoir que ce choix que nous faisons, Dieu va le bénir. Et à ce moment-là, le doute est enlevé. Et nous pouvons dire, je suis dans la volonté de Dieu. Alors pour terminer ce matin, j'aimerais traiter tout simplement un aspect un peu négatif de ceci. Parce que souvent on se dit, mais je veux être dans la volonté de Dieu, mais j'ai peur soit de me tromper ou d'être à côté. Et nous n'avons pas le temps de l'examiner ce matin, mais je vous invite à aller lire l'Épître aux Romains chapitre 1. L'Épître aux Romains chapitre 1, où Paul explique que Dieu livre à leurs propres pensées, à leurs propres penchants, les gens qui refusent de se soumettre à lui. Les gens qui disent « on ne veut pas Dieu et on va faire ce qu'on veut ». Et Paul, à trois reprises, va dire « il les a livrés ». Et ce sont des personnes qui ne cherchent même pas la volonté de Dieu, qui refusent de se soumettre à Dieu. Ce sont ces personnes-là que Dieu va laisser à eux-mêmes. Mais quelqu'un qui recherche sincèrement la volonté de Dieu, Dieu ne le laissera pas à lui-même. Nous ne devons pas craindre que Dieu nous laisse à nous-mêmes avec simplement notre propre raisonnement, notre propre intelligence, si nous sommes sincèrement à la recherche de la volonté de Dieu. Cela n'arrivera pas. Dieu nous accompagnera. Ce sont seulement ceux qui refusent délibérément la volonté de Dieu qui sont laissés à eux-mêmes. Mais nous pouvons avoir l'assurance que lorsque nous sommes à la recherche de Dieu, Dieu nous accompagne à chaque pas. Et il sera là. Et il ne nous laissera pas dévier. Lorsque nous sommes réellement soumis à lui, il ne nous laissera pas dévier. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, à ce moment-là, c'est ce que Jésus explique à ses disciples, lorsqu'on prie, on peut demander tout ce qu'on veut, et Dieu l'accordera. Parce que nos prières seront les prières du Saint-Esprit, donc de Dieu lui-même, qui seront toujours de bonnes prières, des demandes qui s'alignent sur la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, dans notre recherche de la volonté de Dieu, dans notre vie, soyons convaincus que cela est possible. Ce n'est pas un exercice futile auquel il faut s'adonner tant bien que mal, avec peu de perspectives de réussite. Non, Dieu est là. Il nous montre ce qu'il attend de nous. Et lorsque nous le faisons, Dieu est fidèle. Malgré notre infidélité, Dieu est fidèle, Dieu est puissant. Et il va nous diriger dans sa volonté. Ayons cette conviction. Soumettons-nous à ces principes. Lorsque nous les faisons, ce n'est pas comme quelque chose de magique. Non, c'est Dieu qui le fait par sa puissance. C'est possible. Et surtout, soyons en prière les uns pour les autres, comme Paul. Imitons ce qu'il a fait et Dieu nous conduira. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que je suis en train de suivre ses principes? Si oui, Dieu bénira, il nous dirigera dans sa volonté. Sinon, je dois confesser. Je dois m'humilier devant Dieu, confesser cela, et puis je peux demander son aide pour connaître sa volonté. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous reconnaissons notre faiblesse. Nous reconnaissons ta parole et tout ce que tu as pourvu pour nous. Et nous te louons, nous te remercions pour cela. Tu es si généreux, tu es si bon, tu es si grand. Et nous demandons, avec Paul, que tu nous remplisses de la connaissance de ta volonté. Que tu nous diriges, Seigneur, que tu nous donnes cette sagesse. Tu promets de le faire lorsque nous demandons. Et c'est ce que nous faisons en ce moment, Seigneur. Que tu guides chacun d'entre nous. Que tu nous reprennes, que tu nous montres là où notre vie ne s'aligne plus ou pas encore avec ta parole. Que nous soyons sensibles, Seigneur, à ton écoute, prêts à répondre « oui, je te suis, je t'obéis, je me soumets à toi ». Que tu travailles notre cœur, afin que toi, tu sois glorifié, que toute la gloire te revienne, non pas à nous, mais à toi, comme dit ta parole, pour les siècles des siècles. Et que tu le fasses dans la vie de chacun d'entre nous, aujourd'hui, demain, tout au long de notre vie. En ton nom, nous prions. Amen.